France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, les Sex Pistols et la Reine d'Angleterre. Le 7 juin 1977, plus d'un million de Britanniques acclament Elisabeth II au passage de son carrosse et 500 millions de téléspectateurs la regardent en mondiovision. Cette fête, mise en œuvre pour célébrer le jubilé de son règne, a pourtant failli être mise à l'index. Une inflation galopante, des grèves incessantes et une pauvreté devenue visible, autant de facteurs qui font plonger le moral du pays et le mènent vers ce que les historiens nomment l'hiver du mécontentement. Alors, dans ces conditions, on s'interroge. Ces sommes folles prévues pour le jubilé, franchement, est-ce bien le moment? Eh bien, la réponse est dans la rue. Là où un groupe de jeunes punks a décidé d'agir. Aux antipodes des hippies qui les ont précédés, ils se présentent en jean troué et croix gammée pour vomir la société sur une musique déjantée. Shocking, bien sûr, mais pas seulement, car leur musique est à ce point énergique qu'elle réveille l'esprit même du rock, tandis que leurs paroles appellent au sarcasme, à une lucidité acide et à l'insurrection contre la monarchie. Et bien sûr, contre le jubilé, que bientôt le leader du groupe, Johnny Rotten, va outrager. Un chef-d'œuvre d'irrévérence qui, paradoxalement, va redorer le blason du Royaume-Uni. Notre invité aujourd'hui, Stephen Clarke, auteur notamment du livre intitulé « Elisabeth II » ou « L'humour souverain », il vivait en Angleterre durant le jubilé. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Sophie Bobert, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnant, réalisation David Leprince et Stéphane Coom.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Londres, 1er décembre 1976. En milieu de journée, le service de presse de la maison de disques EMI s'agite. Au téléphone, c'est Mike Housegill, le producteur de l'émission Today, diffusée à 18h15 sur la chaîne Thames, juste après le journal. Il s'agit donc d'une émission de prime time très regardée. Chaque jour, il défile des vedettes qui parfois même chantent en live. Mais ce jour-là, Mike Housegill a un gros problème. Le groupe Queen vient de se décommander. Son chanteur, Freddie Mercury, a une rage de dents, il est parti se faire soigner. C'est ballot. Maintenant, il faut le remplacer. Mais par qui ? Mike Housegill s'y connaît en musique. Cela fait des années qu'il est en charge des lives. Et le public en redemande. Si jusqu'en 1967, la vénérable BBC percevait la musique pop comme un phénomène malheureux, elle a fini par comprendre, Beatles oblige, qu'elle participe activement au soft power du pays. Alors va pour la pop musique. Et avec elle, les hit-parades dont sont accros tous les Britanniques. À la télé, l'événement principal de la semaine se nomme alors Top of the Pops, qui décompte de manière théâtrale les meilleures ventes de disques devant des ados déchaînés. Et les bookmakers ne sont pas en reste, qui incitent à miser sur les meilleurs disques de la semaine.
Good evening and welcome to Top. Oh, top
of
the
Pops.
Pops!
Voilà pourquoi, en ce mercredi 1er décembre 1976, Mike Housegill est furieux de voir le groupe Queen lui échapper. Son nouveau single, Somebody to Love, vient de sortir. Il conjugue pop-rock et gospel et il cartonne. Donc, pour le remplacer, il va falloir du haut de gamme, du lourd. Alors voyons, quel groupe serait libre comme ça le jour même au pied levé ? Bah, aucune star, bien sûr. Les stars ont les programmes des semaines en avance. Quel tulle ! C'est alors que Mike Housegill se souvient d'une pochette qu'il a vue passer quelques jours plus tôt sur son bureau. Le titre l'avait étonné, car il tranchait avec la poétique habituelle qui proposait des Mamma Mia ou des I Love to Love. Ici, le titre c'est Anarchy in the UK. Et dès les premiers accords de guitare, on comprend que le morceau annonce une sévère rupture avec les autres artistes.
I am an antichrist. I am an anarchist.
Durant 3 minutes et 36 secondes, en effet, c'est une véritable insurrection qui surgit. Et je vous traduis les paroles que vous venez d'entendre. Je suis un antéchrist, je suis un anarchiste, je ne sais pas ce que je veux, mais je sais comment l'obtenir, je veux détruire les passants, vous rêvez d'un avenir de supermarché, mais moi, je suis l'anarchie. Bon, après tout, ça n'engage à rien. Alors allons-y. Voix rieuse, musique crue, saignante. Mais enfin, qui sont ces musiciens qui se prennent pour des bouchers? Ils n'ont même pas 20 ans. Renseignement pris. Il s'agit d'un nouveau groupe de jeunes gens, non pas dans le vent, mais en colère. Ils se nomment les Sex Pistols, en référence à la boutique sexe que tient leur manager, Malcolm McLaren, sur King's Road, ou avec sa fiancée, la jeune styliste Vivienne Westwood. Ces deux-là vendent des accessoires et des tenues SM, et ça marche. En cette année 76, force est de constater que cette subculture new-yorkaise, autrement dit tendance cuir et t-shirt déchiré, commence à infuser. C'est d'ailleurs ainsi que le chanteur a été engagé. D'après la légende, McLaren l'aurait vu entrer dans sa boutique avec un t-shirt « I hate Pink Floyd ». Ses cheveux étaient jaunes, ses dents pourries et il n'avait jamais chanté de sa vie. Il pouvait donc faire l'affaire. En guise de nom de scène, on décida de faire référence justement à ses dents. Rotten, entendez, pourri, on l'appellera donc Johnny Rotten. À ses côtés, trois autres lads, comme on dit outre-Manche, des garçons des rues. Et tous sont punk, comme Johnny Rotten. C'est-à-dire qu'ils arborent des allures de délinquants et qu'ils vomissent la société anglaise. On les voit ainsi déambuler de façon négligée, portant cheveux hirsutes et colliers de chien. Un look aux antipodes, des pattes d'eff et cheveux longs, propre aux hippies. Ces derniers sont d'ailleurs honnis des punks. Comme l'explique le journaliste Patrick Hudlin en 1977, au micro de Jacques Pogam sur France Culture, dans une émission titrée « Faut-il le prendre au sérieux, le punk ?»
Et cette musique, donc punk, c'est une musique anti-hippie d'une certaine façon ?
Anti surtout ce qu'on appelle les hippies.
Ouais. C'est-à-dire que vous êtes les représentants des villes et non pas les représentants des petites fleurs.
Ah oui, complètement, complètement.
Il y a une rupture totale sur ce plan-là.
Complète.
Pourquoi ?
Pour nous, c'est un phénomène urbain. Et de toute façon, et puis quand on vit dans les villes, je veux dire, tout. Il n'y a qu'à voir bon, les anciens hippies aujourd'hui en 77, où en sont-ils ? Enfin, je veux dire, ou alors, ils ont sombré bon, dans un gauchisme complètement débile, un faux écologisme. Ou alors, bon, ils ont la tête percutée à vie avec des overdoses d'acide. Et puis, ils ont loupé leur coup, quoi, je veux dire.
Ils ont loupé leur coup ? Peut-être. Disons que le monde n'est pas forcément plus aimant ni aimable que dans les années 60. D'où la désillusion et parfois le sarcasme de la génération d'après qui prendra les commandes. Et puis qu'est-ce que ça veut dire punk, hein ? C'est quoi ce mot ? Eh bien c'est le critique américain Lester Bangs, adepte de Kerouac et de Bukowski, qui l'a créé en 1969. Punk pour signifier voyou, gratté, dégénéré. Tout cela, le producteur de Live Mike Ousgao le sait. Et pourtant, il persiste à penser que ce serait intéressant de les inviter. Or, sa chargée de programme, Christine Whitehead, ne partage pas son enthousiasme. Et elle prévient Mike. Moi, je pense qu'ils sont capables de dire fuck, ce qui est alors formellement interdit à la télé. Bon, Mike réfléchit et lui répond peut-être, mais leur tourne et nous n'avons pas le choix. L'invitation est donc lancée. Dès qu'il arrive, on installe le groupe dans la Green Room, sorte de loge très fournie en alcool. Mais en guise de live, c'est leur clip qui est diffusé. Puis le moment arrive de passer en plateau pour être interrogé. Le journaliste Bill Grundy, un quinquagénaire en costume, pas très à l'aise. Face à lui, quatre Sex Pistols affalés sur leur siège, cigarette à la bouche et gobelet de bière à la main. Derrière eux, debout, quatre fans, dont l'icône de la contre-culture Succession. Tous sont très jeunes et tous affichent un look plus punk que jamais. Cheveux jaunes, épingle à nourrice et croix gammée. Et l'interview commence mal. Car étonnamment, c'est Bill Grundy qui lance les hostilités en annonçant qu'il est aussi sous qu'eux, façon sans doute de se donner de l'assurance. Puis voilà qu'il lance à Siouxissou, on se retrouvera après. La drague-t-il ? Avant de pousser le chanteur, Johnny Rotten à bout, comme en témoigne cet extrait diffusé en 2016 sur France Culture.
Johnny Rotten marmonne. Chacun sa merde, sans vraiment assumer. Le présentateur veut lui faire répéter. Rotten, j'ai dit merde. Dieu du ciel, s'offusque le journaliste, qui dragouille ensuite la chanteuse Siouxissou. Steve Jones le traite alors de vieux vicelard, de sale con, et puis, encouragé par le présentateur lui-même, de pauvre type, de sale connard, d'enfoiré de merde.
Go on, you've got another fight,
you
say something outrageous.
You dirty bastard.
Go on, again.
You dirty fucker.
What a clever boy.
What a fucking lot.
Well, that's it for tonight.
Imaginez ça sur France Inter, enfoiré de merde. L'interview s'achève et déjà, les 12 lignes du standard sont prises d'assaut par des téléspectateurs outrés. Jamais en effet, la moindre grossièreté n'avait été émise dans l'histoire du service public britannique. Jamais, puisqu'aucun punk n'y avait été invité. Le lendemain, le Daily Mirror titre « La crasse et la furie », bientôt rejoint par d'autres tabloïdes. Tous se déchaînent et la maison de disques EMI déchire leur contrat. Grave erreur. Car déjà les ventes explosent, les jeunes s'arrachent leurs disques, mais les adultes, eux, s'inquiètent. Dans la foulée, une enquête est menée par l'IBA, l'Arcom britannique, enquête à l'issue de laquelle le présentateur Bill Grundy est mis à pied pour 2 semaines, sanction dont il ne se remettra jamais professionnellement. Des hommes politiques prennent alors la parole pour demander que plus jamais les Sex Pistols ne se produisent nulle part, c'est-à-dire sur aucune chaîne, ni dans aucune salle de concert. Effacés. Cancel culture avant l'heure. Un conseiller municipal de Londres déclare même « Certains de ces groupes gagneraient à mourir rapidement. J'aimerais voir quelqu'un creuser un trou et les y enterrer tous. » Un appel à la censure ? Pas loin. Car on dit du groupe qu'il est devenu l'ennemi public numéro 1. Et en effet, sur les 21 dates de concerts prévues, seules 3 d'entre elles sont maintenues. C'est peu de dire qu'en cette période de fête de Noël, l'émoi est national. Si le Royaume-Uni est à ce point bouleversé, c'est parce que le groupe appuie là où ça fait mal. Ils sont un symptôme, un miroir tendu vers un pays en mauvaise santé. Exemple, un journaliste qui leur demande « Enfin, pourquoi cette langue abominable ?» Johnny Rotten répond « Abominable ? Tu plaisantes, hein. Je ne parle qu'une langue, c'est l'anglais. Et si elle est abominable, tant pis pour elle. » Serait-il acquis que la Grande-Bretagne est tombée de son piédestal ? Pas loin, si l'on en croit le journaliste André Sélarié sur TF1.
Et voici ces ouvriers anglais. On dit qu'ils produisent peu, qu'ils préfèrent de nouveaux loisirs et de nouveaux efforts. On dit que leur pays est au bout de la route, et même qu'il est au bord du gouffre. Et même des Anglais, déçus, blasés, comparent leur nation à un peuple de moutons vidés de leur sang qui broutent allègrement les derniers bourgeons. Un économiste anglais célèbre brandit le spectre de 3 millions de chômeurs en 1985 et demande si le pétrole jaillit en mer du Nord va être utilisé pour sauver le pays ou pour financer son suicide.
Financer son suicide, oui, le mot est lâché. Et une autre expression fait florès, celle d'un Royaume-Uni homme malade de l'Europe. Mais comment pourrait-il en être autrement ? Entre 1964 et 1979, le pays a été marqué par 6 élections, un référendum national, 3 référendums régionaux, 4 gouvernements et 3 premiers ministres. Et rien n'y a fait, le Royaume-Uni ne se relève pas. Après des siècles de domination sur le monde, la désillusion est sévère. En quelques décennies, son empire a été démantelé. Une décolonisation salutaire, certes, et qui laisse un goût amer à nombre de ses sujets, comme l'explique ce Britannique sorti de la naphtaline pour l'émission Magazine 74 diffusée sur la RTF.
It's very difficult now, obviously.
Évidemment, de nos jours, il est difficile d'être un propriétaire terrien. Mais nous pouvons toujours vivre avec le passé. Les Britanniques sont très très doués pour cela. Nous avons perdu l'empire en très peu de temps, mais il est peu probable que nous perdions nos traditions aussi rapidement. Il est peu probable aussi que nous assistions à la chute de la monarchie ou à la disparition de la garde devant le palais de Buckingham. Nous nous considérons toujours comme une puissance industrielle, sans avoir l'ombre des moyens que nous avions il y a 100 ans, pour soutenir la concurrence.
Impossible en effet de soutenir la concurrence. Le modèle mis en place au lendemain de la guerre, fondé sur l'État-providence, sclérose rapidement. D'autant qu'en 1973, le choc pétrolier frappe le pays de plein fouet. Avec pour conséquence immédiate des coûts de production en hausse, surtout pour les industries vieillissantes. L'inflation est alors propulsée à 15%, avec une pointe même à 25% en 1975. Et l'impact est immédiat. Des milliers d'entreprises mettent la clé sous la porte et déversent deux fois plus de chômeurs que 5 ans auparavant. Peu à peu, ce sont tous les secteurs qui se mettent en grève. L'automobile, le rail, l'école, l'hôpital. Bientôt, il n'y a plus d'essence, plus de chauffage, ni de cornflakes pour les enfants. Les plus aisés s'en sortent en puisant dans leur légendaire flegme anglais, en mode « never complain », comme l'exprime cette femme interrogée dans ce même documentaire.
Vraiment, si on pensait qu'on ne vivait pas sous une menace, on serait absolument la belle endormie ou quelque chose comme « what you call the sleeping beauty ». Parce que vraiment, la vie en ce moment, comment vous pouvez dire ? Évidemment, c'est épouvantable, tout est épouvantable. Mais il ne faut pas être pessimiste. Il faut trouver des solutions. Je ne sais pas comment, parce que je ne suis pas... I'm not a politician, mais il y a sûrement des solutions. On va être obligé de retourner un peu, on va avoir froid, on va être obligé de marcher au lieu d'aller en voiture. Mais ça va être très bien pour la santé.
Oui, c'est très bien pour la santé, oui, quand on peut encore payer son loyer. Ce qui n'est pas le cas de nombreux Anglais qui se sentent menacés. En somme, en ces années 70, le déclin du pays devient visible. Alors, comme toujours dans ces contextes de crise, les tensions sociales se multiplient et de nouveaux partis régionalistes ou populistes émergent, au point que certains universitaires qualifient cette période d'âge d'or de la criminologie. C'est dans ce contexte qu'en cette année 1976, le travailliste James Callaghan est porté au pouvoir. Le pays mis sur lui pour redresser la barre. Et de fait, l'une de ses premières mesures est d'accorder une hausse de salaire aux mineurs. C'est gentil, mais cela relance l'inflation. Un vrai cercle vicieux. Alors, comment s'en sortir ? Au bord de la faillite, la Grande-Bretagne est contrainte de solliciter un prêt de 4 milliards de dollars auprès du FMI. Pire encore, le dictateur ougandais, Amin Dada, lance un fonds de soutien pour ne pas qu'elle s'effondre, la Grande-Bretagne. Quelle humiliation ! C'est dans ce cadre désenchanté que grandit la jeunesse britannique née dans les années 60, au début des années 60. Et sa rage est totale d'arriver après la fête, dans un puits flingué par les temps modernes, à qui l'on demande encore de se serrer la ceinture. Dans son autobiographie titrée « La rage et mon énergie », le chanteur des Sex Pistols, Johnny Rotten donc, revient sur ce sentiment d'humiliation qui l'étreint à grande vitesse.
Ce qui m'étonne le plus dans cette histoire, c'est que nous étions traités de voyous, alors que nous véhiculions un message d'honnêteté et de vérité. Nous jouions même un rôle d'utilité publique, c'est-à-dire qu'enfant, même si nous étions pauvres, on se sentait en sécurité. Il n'y avait pas de jalousie puisque personne n'avait rien, mais tout a changé quand la télé en couleur est arrivée. Et avec elle, ses publicités pour voitures et appareils électroménagers auxquels on n'avait pas accès. À partir de là, nous avons pris conscience que nous étions des citoyens de seconde zone. La pub a développé la frustration et, avec, le vol et la violence. C'était une société bâtie sur l'humiliation constante d'une classe ouvrière traitée comme une bande de demeurés. Le punk a explosé sous Callaghan et le Parti travailliste. En fait, Margaret Thatcher et nous, les gens du punk, nous étions les deux réactions opposées au même problème.
Le Parti travailliste est en effet impuissant. Et déjà, Margaret Thatcher fourbit ses armes. L'ambiance était sinistre, se souvient le journaliste John Savage, créateur du premier fanzine punk, London's Outrage. Il y avait des quartiers entiers de Londres qui étaient plongés dans une extrême pauvreté. Des sites encore marqués par les bombardements de la guerre. Le contexte social se dégradait. La vie culturelle était au point mort. En somme, l'époque était mûre pour les Sex Pistols. Dans ces conditions, en effet, comment ne pas devenir punk et renverser la table, dynamiter les conventions, le flegme anglais, et pourquoi pas, oh tiens, ce serait fort ça, perturber le jubilé de la reine.
Potential heights burn.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, les Sex Pistols contre la reine d'Angleterre.
Aujourd'hui, l'équipe d'Inter 13 se trouve à Londres à l'occasion du jubilé de la reine. Jean Lefebvre, c'est à vous.
Affaires Sensibles sur France Inter.
Oui, c'est la parade à Londres, celle qui marquera mardi la célébration officielle du jubilé de la reine Elisabeth. Et bien sûr, on la répète déjà dans les rues de Londres, la parade des Horse Guards, en grande tunique bleue, bonnet de poil, le grand spectacle, quoi.
Nous sommes le samedi 4 juin 1977 et le grand jour approche. Dans 3 jours, la reine Elisabeth II paraîtra en public pour fêter ses 25 ans de règne. Cérémonie pour laquelle on attend pas moins de 11 millions de touristes. Six mois ont passé depuis l'incident télévisé avec les Sex Pistols. Six mois durant lesquels la situation économique du Royaume-Uni ne s'est pas améliorée, mais qui avait le groupe punk gagner ses galons de vedettes. Chaque jour, désormais, les tabloïds relaient de nouveaux scandales. Ici, c'est un concert qui dégénère et qui l'oblige à se replier dans une boîte de striptease. Là, c'est un aéroport qui est saccagé. L'année 77 avait d'ailleurs commencé de façon houleuse au sein du groupe, avec le remplacement du bassiste Glenn Matlock par un ami de Johnny Rotten, un jeune brun surnommé Sid Vicious. On dit qu'il n'a jamais joué de la basse. Pas grave. Plus punk que lui, il ne fait pas. À son sujet, Rotten dira plus tard, le pauvre vieux, il était d'emblée condamné. Sa mère était accro à l'héroïne, elle lui en offrait même pour son anniversaire. C'est pour cela que je la détestais. Viré de leur première maison de disques EMI, le groupe signe en mars avec le label AM devant un lieu qui sonne comme un avertissement, le palais de Buckingham. Entouré de journalistes et de photographes, tous rient en pensant que le propre père de Sid Vicious, qui ne l'a pas élevé, y travaille, oui, pour la garde des brigadiers en tunique rouge et bonnet de poil d'ours, dont le régiment remonte à 1656. Et puis comme c'est drôle de penser que c'est ici que partira la reine le 6 juin pour fêter ses 25 ans de règne. Toutefois, au-delà des rires, l'idée est également de lancer un nouveau single titré justement « God Save the Queen ». Alors, on ouvre le champagne et on trinque à l'avenir. Mais de retour chez AM, les Sex Pistols sont tellement ivres qu'ils sèment la panique dans les couloirs, comme le raconte Johnny Rotten dans le documentaire « L'obscénité et la fureur », réalisé par Julian Temple en 2000 et produit par Film 4.
Chez AM, le cirque a été à son comble. Je ne me rappelle pas bien, mais les dactylos étaient effrayés. Sid saignait, j'avais un cocard, Malcolm courait partout et Steve draguait les secrétaires. On a repris la voiture pour aller au studio pour l'enregistrement définitif de God Save the Queen. Ça a mis le souk chez les mômes de l'école voisine et les flics sont venus. C'était une journée délire. Le lendemain, Malcolm nous apprend qu'AM nous virait.
Eh oui, de nouveau viré. Parce que les employés ont découvert ce que signifie s'accoquiner avec des punks qui vomissent dans les pots de fleurs, harcèlent les secrétaires et fracassent les cuvettes des toilettes. Outré, la direction de AM se penche sur leur cas, regarde de plus près les paroles du titre à venir et soudain blêmit. Hors de question de participer à un tel crime de lèse-majesté, c'est pas de le dire, de surprendre en plein jubilé. Le contrat est donc déchiré et les Sex Pistols sont renvoyés. Sauf que le disque est lancé et la rumeur le précède. Et voilà que les employés de l'usine de pressage refusent de le graver. En cause, son visuel, qui reprend le portrait officiel de la reine, signé Cecil Beaton, affublé d'une épingle à nourrice dans le nez, après que la croix gammée dans son œil tout de même a été supprimée. Mais on crie au scandale. Intervient alors un homme bien inspiré qui prend le relais. Il s'appelle Richard Branson. Il a 26 ans et il vient de fonder le label Virgin. Il sent bien que cette affaire peut le rendre riche. Alors, il signe pour devenir la troisième maison de disques des Sex Pistols, troisième en un an, et il relance l'impression de l'album pour la fin du mois de mai. Bien vu, car en quelques jours, il s'en écoule plus de 150 000 exemplaires. À propos, que dit ce single? Est-il aussi scandaleux que le premier, Anarchy in UK? Johnny Rotten dit l'avoir écrit d'une traite, le temps d'avaler une boîte de baked beans. à croire que la colère couvait depuis longtemps. Et on y lit quelque joyeuseté, que la reine symbolise un régime fasciste, qu'elle n'est pas un être humain, et que les touristes sont juste bons pour le fric. Bon, c'est vrai qu'ils sont nombreux, les touristes, en ce week-end de jubilé. Et le pays compte sur eux pour acheter des assiettes à l'effigie de la reine, des casquettes et des drapeaux à gogo. Et bien sûr, la télé française y envoie ses reporters. Ici, Claude Gagnère qui donne la parole à une Anglaise.
J'aime beaucoup la tradition, il faut garder ça. Toutes les couleurs qu'on voit, par exemple maintenant avec le jubilé, les drapeaux partout. Je crois qu'on perdrait beaucoup si on n'avait pas la famille royale en Angleterre.
Est-ce que vous ne trouvez pas, par exemple, qu'on dépense beaucoup d'argent pour ce jubilé et que c'est peut-être un petit peu inutile, non?
Mais ça se passe une fois tous les 25 ans, alors ça vaut le coup, je crois. Et il y a beaucoup de gens qui voient la reine, par exemple, pour la première fois.
Ça vaut le coup, oui, tant que les finances du pays ne sont pas plombées et que cette fête ne paraît pas indécente. Car dans ce contexte de marasme économique, on est vite tenté d'évoquer une gabegie, un truc de mauvais goût. D'ailleurs, le débat fait rage, au pub, dans les familles et jusqu'à la Chambre des communes, comme le raconte Tristan Gaston-Breton dans Les Échos.
À vrai dire, les Sex Pistols ne sont pas les seuls à critiquer les festivités prévues pour le jubilé. Le Premier ministre, James Callaghan, y est défavorable et avec lui une bonne partie du cabinet. Pourtant, il respecte la reine. Qu'a de l'estime pour lui d'ailleurs. C'est un homme issu de la classe ouvrière, volontaire dans la Navy durant la guerre. Non, la question, c'est le coût de la fête. Les finances publiques sont au plus bas. Alors dépenser des centaines de milliers de livres, c'est indécent. C'est dans ce contexte que le mécontentement face au faste du jubilé inquiète. Mais Martin Charters, le secrétaire particulier de la reine, finit par convaincre Callaghan qu'au contraire, le faste renforcera la fierté et l'unité nationale. Alors Callaghan plie, et autorise même une grande tournée à travers le pays et dans les États du Commonwealth.
En effet, cette journée du 7 juin semble bien commencer. D'abord, il ne pleut pas, ce qui est une considération importante dans ce pays, et un million de sujets se pressent autour des grilles du palais en agitant les drapeaux anglais. À la cathédrale Saint-Paul, une trentaine de chefs d'État sont attendus, parmi lesquels le président américain Jimmy Carter. Sous les caméras, et suivant un protocole millimétré, tous prennent place et attendent le carrosse d'or de la reine qui traverse Londres sous les vivas, comme le décrit Léon Zitrone, grand fan des histoires de reines et de princesses.
Voici le prince de Galles, qui est donc descendu de cheval, tandis que la reine, sa mère, la reine régnante, dans sa toilette rose, descend elle-même toute souriante et que le prince Philippe, duc d'Édimbourg, la suit. Le carrosse s'est arrêté devant le parvis. Ceux qui précédaient la reine dans son cortège ont continué vers une autre entrée de la cathédrale. La reine, le duc et le prince de Galles sont reçus par leur mère qui porte le glaive de perles et qui va les précéder. Derrière ses parents, donc le prince de Galles, la reine monte.
L'instant est à la fois solennel et d'un autre temps. Qui imagine alors qu'au même moment, un manager et un producteur à la mode fomentent un coup musical qui restera dans les annales? Film mouche, en effet, Malcolm McLaren et Richard Branson ont eu l'idée de louer une petite péniche qui, est-ce un hasard, répond au nom de Queen Elizabeth. À bord, pas un seul touriste, mais 80 fans et journalistes invités pour célébrer la sortie du disque. Le concert commence sur le pont, le son est poussé à son maximum, et le groupe, qui a refusé toute estrade, s'apprête à jouer au milieu des convives. Or, Johnny Rotten commence à se méfier. Il se sent instrumentalisé. Il dit « C'est obscène tout ça, on nous prend pour des cons ». En tout cas, l'alcool coule à flot, les premières guitares grincent et la voix de Rotten s'élève, tandis que la reine pénètre dans la cathédrale.
À partir de cet instant, alors que vous entendez les trompettes de la cathédrale, le service d'action de grâce va commencer, c'est la sonnerie de fanfare par les trompettes de la cavalerie de la maison royale. Avec celle de la cathédrale, et la reine, qui va être précédé par les rois d'armes, les héros et les poursuivants, va se placer à sa place de la procession.
La procession de Sa Majesté se forme, toujours sous l'œil fasciné de Léon Zitrone, alors que non loin de là, sur la Tamise, une poignée de Britanniques dénigre son nom et son pays. La péniche passe devant le Parlement, et voilà que le single « God Save the Queen » résonne très fort, un vrai happening. Montée comme un coup de com', la croisière et la plaisanterie auraient pu en rester là. Mais punk attitude oblige, après une demi-heure de navigation, voilà que tout dégénère. Le photographe de Paris Match, Jean-Claude Deutsch, s'approche trop près de Sid Vicious. En réponse, il reçoit un coup de botte au visage qui le laisse en sang. Panique sur la péniche, où le concert est interrompu. Et immédiatement, le capitaine prévient la police fluviale, qui débarque avec 6 navettes et oblige la péniche à accoster. Quelques bagarres éclatent, les Sex Pistols parviennent à s'enfuir, et Malcolm McLaren et Vivian Westwood se font coffrer. Les photos feront le tour du monde. L'ambiance était très paranoïaque, raconte le journaliste John Savage. Rendez-vous compte, le groupe a joué Anarchy in the UK devant le Parlement. J'avais l'impression de vivre un moment historique. Oui, un moment historique, c'est vrai, mais qui a un prix. Après cet épisode, les membres des Sex Pistols seront régulièrement victimes d'opérations punitives de la part de royalistes fanatiques. L'un aura une jambe brisée, un autre manquera de perdre son œil. Alors, un fiasco ce concert spécial jubilé? Pas le moins du monde, car en dépit des difficultés, le pays a acclamé la reine et le titre God Save the Queen passe premier sur les charts. Un exploit, même si les chaînes publiques sont sommées de passer sous silence. En outre, quelques mois plus tard, le groupe lancera son seul et unique album, Nevermind the Bollocks, dans une pochette devenue mythique, en lettres noires, roses et jaunes fluo. Un carton intégral. Le magazine Rolling Stone le classera même en deuxième position des meilleurs albums de tous les temps. Juste derrière Sgt. Pepper's des Beatles, tout de même, on ne touche pas au sacré, hein, punk ou pas. 35 ans plus tard, et alors que la Grande-Bretagne est parvenue à surmonter ses difficultés, une surprise attend Johnny Rotten. Il vit désormais en Californie et s'est passablement assagi lorsqu'il ne réapparaît pas avec un livre ou une pub pour du beurre anglais. La surprise, c'est qu'il est invité à la cérémonie des JO de Londres en 2012, sur les bords de cette même Tamise qu'il avait vu autrefois chanter. Motif de l'invitation, l'une de ses chansons, Pretty Vacant, parue un mois après le jubilé, y sera diffusée. On y entendra son refrain qui déclame « Nous sommes si mignons et si inutiles ». Quelques semaines après cette cérémonie, il avouera au journaliste Hugo Cassavetti « Ce ne fut pas une victoire, mais ça m'a fait plaisir. Quelle joie de voir la famille royale au grand complet, obligée d'écouter Pretty Vacant sans sourciller. God Save the Queen aurait été encore plus jouissif, ouais. Mais enfin, fallait pas exagérer. » Aujourd'hui, les Sex Pistols et la reine, on en parle avec notre invité, Stephen Clark, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur franco-britannique, vous avez longtemps été rédacteur en chef pour Bayard Press, avant de devenir auteur de livres qui traitent du choc des cultures entre la France et le Royaume-Uni. Parmi ces livres, on cite God Save la France, sorti en 2016, et Elisabeth II, ou l'humour souverain, chez Albin Michel en 2018. On y reviendra, cette notion d'humour souverain, si vous voulez bien. Alors, cette période que nous venons de raconter, du milieu des années 70, vous vous en souvenez évidemment, car vous étiez vous-même un adolescent à cette période-là, en Angleterre, dans une petite ville du Sud. Vous jouiez même, je crois, de la basse dans un groupe, en révisant le bac. Quels sont vos premiers souvenirs des Sex Pistols, quand vous les avez découverts? Qu'est-ce que vous dit?
Ben, il faut dire que Sex Pistols ont mis assez longtemps pour venir sur la côte sud. Parce que moi, j'étais sur la côte sud, c'était une station balnéaire. J'ai joué dans un groupe, mais on était plutôt au rock. Et puis il y avait ces gens, ces punks qui jouaient, et j'ai joué avec des types un peu plus âgés que moi qui disaient mais ils sont nuls, ils savent pas jouer tout ça. Et en fait j'ai avalé tout ça au début et je ne les écoutais pas. Et ce n'est que quand j'ai écouté l'album de Sex Pistols que j'ai entendu qu'en fait c'est super bien joué. C'est quand même produit par Chris Thomas, qui est un ancien producteur de The Beatles et de Pink Floyd. Je veux dire, The Sex Pistols, leur manager disait « Ouais, on déteste Pink Floyd, on est contre les hippies », mais ils ont pris le producteur des Beatles et des Pink Floyd pour faire un super album de rock. Ouais. Donc, pour moi, c'était une sorte de joie, c'était la créativité qui explosait, une nouvelle créativité. Et c'est mon souvenir de l'époque, c'est ça, c'est, il faisait très beau l'été, j'habitais sur la côte sud, il faisait très beau et il y avait cette musique forte absolument partout qui énervait à fond nos parents. Donc on était super contents parce qu'on n'était pas encore dans l'économie. Donc on avait, c'était juste une sorte de joie créative qui explosait et c'est ça mon souvenir.
Est-ce que ce rejet de Pink Floyd, des Beatles et autres grands groupes qui jouaient de la grande musique, la super musique merveilleusement harmonieuse, c'était, si j'ai bien compris, c'était juste une posture, parce qu'en fait, musicalement, ils n'étaient pas, le contre-modèle.
Ça dépend. Il y avait des groupes plus hardcore que The Sex Pistols qui faisaient des chansons qui duraient une minute et c'était un bruit absolument affreux. Moi, j'en ai vu dans des pubs, tout ça. Mais oui, ils étaient contre le fait de jouer des guitares, des solos de guitare pendant 20 minutes. Ils trouvaient ça un peu gonflé. Mais il faut, si vous écoutez The Sex Pistols, il y a des solos de guitare absolument magnifiques, mais qui durent 30 secondes. Donc ils ont compacté les choses. Ils ont rendu ça plus énergique. Mais je pense qu'ils étaient sincèrement contre ces musiciens un peu vieillissants, trop sur d'eux.
Académiques.
Oui,
eux, c'est ça.
Pas forcément académique, mais juste, ils étaient là depuis longtemps et ils devenaient un peu ennuyeux et répétitifs. Et là, c'était une nouvelle génération qui voulait faire autre chose. Et ils ont fait autre chose, très mélodique d'ailleurs, juste derrière cette explosion qu'a fait le Sex Pistols et d'autres. Après, le terrain était tellement vide que sont venus tout de suite The Police, Dire Straits, Elvis Costello, des super mélodies, des super musiques, mais un peu nouveaux. On a créé plein de nouvelles maisons de disques et tout ça, indépendantes. C'était une sorte de renouveau de la musique. Mais c'est juste ça, en fait.
Et puisqu'on est dans les considérations purement musicales, vous n'avez pas cité Clash.
Non, j'ai
qui était pourtant punk. Alors lui, merveilleusement harmonieux.
Oui.
Oui, extraordinaire.
Oui, c'était pas parmi mes favoris, mais oui, exactement. Oui, Clash aussi. Je veux dire, eux aussi, ils ont profité de ça. Ils avaient soudain une nouvelle liberté créative musicale. Mm-hmm. Pas seulement musicale, parce que aussi l'art, les films et tout ça, il y avait un vrai le journalisme. Même la télé, il y avait des émissions genre très humoristiques à la télé, complètement folles. C'était une sorte de renouveau. Donc pour moi, l'économie, il faut dire que nos parents souffraient et qu'on entendait parler de chômage. Mais pour nous, la fac était encore gratuite. Contrairement à maintenant, où ça coûte genre 8 9 000 par an, la fac était gratuite pour les gens comme moi, dont les familles n'avaient pas l'argent. Donc il n'y avait pas d'espèce de barrière dans... Johnny Rotten disait « There's no future, there's no future ». Mais il disait aussi « We are the future ».
Ah oui, il ne faut pas oublier qu'il disait « no future », on ne l'a pas dit,
il disait une sorte de menace, « there's no future, no future ». Il parlait effectivement pour les gens qui n'avaient pas accès à l'éducation, mais il disait aussi aux vieux, aux nos parents, attention, parce qu'il disait « we are the future », c'est nous l'avenir, donc il faut faire gaffe, parce que c'est nous qui allons bientôt avoir le pouvoir, donc traitez-nous bien. Donc c'était assez sérieux aussi.
Donc en gros, avec eux, le futur a de l'avenir.
Oui.
Un détail tout de même, l'apparence vestimentaire, la provocation par l'apparence vestimentaire.
Ouais.
Bon alors, une épingle à nourrice, ça passe, mais enfin, croix gammée, parfois. C'est un peu de mauvais goût quand même, non?
Oui, mais c'était pas un nazi, parce que au même...
Non, je dis pas ça, mais de mauvais goût.
C'était de très mauvais goût, et c'était justement, les parents, c'était des gens qui avaient fait la guerre. Donc qu'est-ce qu'on peut faire le plus choquant pour les parents, c'est de mettre une croix gammée. Ça énerve à fond. Donc, c'était que ça. C'est comme mettre une épingle à nourrice dans la joue. Je veux dire, ça énerve les parents parce que c'est moche, mais en plus, les enfants qui se font mal, les parents ne veulent pas voir ça. Donc, il faut absolument énerver cette génération, les parents, et aussi tous ceux qui adorent l'establishment, la reine et tout ça. Johnny Rotten, dans God Save the Queen, il y a tout un couplet qui parle du fait... qui parle de l'histoire. On n'en veut plus de votre histoire, là. C'est fini, votre histoire. Et donc, c'est un peu la fin de l'Empire. Et il disait, mais c'est la fin de tout ça. On n'en veut plus de tout ça. Donc, il fallait absolument énerver à fond cette génération. Et donc, même on ne le ferait plus de nos jours, mais pour la génération de mes parents, c'était ce qu'il y avait de plus choquant, c'était la croix gammée.
Et chez vous, ça se résume avec un mot, shocking.
Voilà.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Stephen Clarke, l'historien Kenneth O'Morgan résume la décennie 70 chez vous, hein, au Royaume-Uni, par ces mots, notre heure la plus difficile. Vous êtes d'accord avec lui ?
C'était, politiquement, c'était très difficile. Il y avait la guerre en Irlande du Nord avec des attentats sur le sol anglais aussi. Ça, c'était très dur. C'est vrai que l'industrie a commencé à mourir là et on n'a pas fait grand-chose pour sauver. Ça, c'est vrai. Donc, c'était très dur, mais c'était... beaucoup de pays ont souffert un peu la même chose avec les anciennes industries et tout ça. Mais culturellement, c'était incroyablement excitant. Je veux dire, ça a commencé avec David Bowie, quand même.
Mais oui.
Et ça a fini avec Punk, The Police et tout ça. Donc, c'était, et avec, au milieu, Pink Floyd. Donc, c'était quand même culturellement incroyable.
Oui. D'ailleurs, le Royaume-Uni reste la patrie de la pop et du rock. Alors, donc, ce sont des années difficiles d'un point de vue social. Et on s'est dit, ce jubilé, quand même, dans ces conditions, c'est presque de mauvais goût, d'ailleurs. Écoutons cet extrait de la série The Crown, série remarquable, diffusée sur Netflix. Nous sommes alors en juin 1977 et Elisabeth II se rend chez sa sœur Margaret pour lui confier justement son cas de conscience.
Pour le moment, le ciel n'est pas trop ouvert. On dirait qu'il va faire bon jusqu'à la fin de la journée.
Quel est votre avis pour le jubilé ?
Vous devez le célébrer.
Cela ne risque pas de se retourner contre moi. Posez-vous la question, depuis que je suis sur le trône, qu'ai-je réellement fait ?
Vous êtes restée calme et stable.
Et inutile et impuissante. Quand je suis devenue reine, c'était un grand pays, regardez-le maintenant. Quand je pense que Churchill imaginait un deuxième âge d'or élisabétain, tout ce que j'ai fait, c'est regarder le Royaume-Uni s'effondrer.
Il ne s'est effondré que si nous admettons qu'il s'est effondré. C'est ainsi la monarchie. Nous replâterons les fissures. Et si nos prestations ont assez de résonance, de splendeur et de sûreté, personne ne se rend compte que tout s'effondre autour de nous. C'est notre raison d'être.
Alors, Stephen Clarke, ce jubilé dans ces conditions-là, était-ce bien raisonnable ? Quel est votre regard sur cet événement ?
Je pense que maintenant, on a compris, et la reine aussi après, elle a compris qu'en fait, être inutile, c'était un peu son rôle. Inutile politiquement en Angleterre, ouais. C'était pas son rôle. Son rôle était de symboliser la continuité. Donc en fait, elle a dit après qu'elle existait pour être vue. Il faut me voir pour me croire, elle a dit. Et c'était ça son rôle, ça veut dire l'Angleterre, ce que nous faisons bien en Angleterre, quels que soient les problèmes économiques, c'est on fait des super bonnes processions, on fait des super bons costumes rouges pour des parades dans la rue, et on fête bien les grands événements royaux en attirant effectivement, comme a dit Johnny Rotten, beaucoup de touristes qui apportent beaucoup d'argent. Et moi j'ai assisté pour les radios françaises et les télés françaises à des couronnements et malheureusement aussi des enterrements. Et pour moi, c'est les seuls événements genre non sportifs qui rassemblent tous les journalistes du monde. Ça se passe chez nous à Londres. Et la reine était pendant super longtemps au cœur de ça. Donc, et elle a compris après que c'était son rôle. Donc on peut dire qu'il ne fallait pas fêter le jubilé, mais en fait, le rôle de la reine était d'être là et fêter ce jubilé.
Et alors, ce qui est amusant, c'est que grâce aux Sex Pistols, Elisabeth II serait devenue une icône punk, finalement.
Oui, complètement. Oui, maintenant. Et à la fin de sa vie, la reine faisait des petits films comiques.
Ouais.
Elle a fait un film avec l'ours Paddington. Je veux dire, elle est devenue pop art, la reine, à la fin de sa vie. Elle a même sauté en parachute pour les Jeux Olympiques. On dit que c'était pas elle, mais tout le monde, on sait que maintenant que c'était effectivement elle qui a sauté en parachute. Non, je plaisante. Mais je veux dire, elle est devenue icône pop parce qu'en fait aussi, la chose que nous, en Angleterre, on fait le mieux, c'est le pop. Le pop art, tout ce qui est la culture pop est très bien respecté chez nous, comme tout ce qui est comique aussi. On n'a pas de problème de complexe intellectuel comme vous ici en France. On est fiers de faire des choses de temps en temps un peu bêtes, pas cool. Et même la reine, elle a fait un super petit film avec l'ours Paddington. Vous imaginez, mais un président français ne ferait jamais ça.
Pour l'instant, non.
Oui, on verra plus tard. Peut-être ils en ont besoin après pour gagner une élection. Mais elle est devenue, oui, icône artistique.
Alors, on dit souvent que les Sex Pistols sont un symptôme de la Grande-Bretagne, ou du Royaume-Uni, soyons précis, qui va mal. Serait-il aussi un symptôme du Royaume-Uni qui va bien?
Oui. Artistiquement, créativement, musicalement, cette énergie qui vient de... En fait, beaucoup de ce qui se fait de mieux chez nous, on n'est pas un pays à subvention culturelle. Si vous voulez faire quelque chose, il faut le faire sans être payé, au début. Donc, chez nous, il y a cette tradition, j'ai une idée, je vais le faire le mieux possible, j'ai pas de fric, mais on s'en fout, je vais le faire. Et ça donne une sorte de créativité très variée.
D'émulation.
Renouvellement, mais très personnel, des choses très différentes. Et donc, dans ce sens-là, eux, ils ont fait exactement ça. Vous savez, ils ont volé les amplificateurs de David Bowie pour faire leur concert. Je veux dire, c'est ça l'initiative.
Et la punk attitude. Merci infiniment, Stephen Clark.
Au revoir.
Et Affaires Sensibles aujourd'hui, les Sex Pistols et la Reine, une émission que vous pouvez réécouter, bien sûr, en podcast, évidemment. Et à la technique aujourd'hui, il y avait Nicolas Delmas.